Donc nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Monsieur le Professeur pour le deuxième volet de ces deux conférences. Ce soir nous avons la conférence qui s'intitule « La révolution pédagogique, l'éducation d'aujourd'hui comparée à celle d'hier ». Donc étant donné que nous sommes dans une université, dans une institution d'éducation, éduquer, conduire, diriger les jeunes, disons, à une connaissance approfondie des matières. Donc cette conférence ce soir est d'un très grand intérêt pour nous tous, qui, surtout les enseignants. Moi, je suis enseignant, donc ce soir, j'attends avec impatience le propos du monsieur le professeur. Aujourd'hui, on parle beaucoup des besoins, autoréalisation, pédagogie de soi, pédagogie subjective, abstraction faite, disons, d'une finalité ou de Dieu. Et nous allons placer cette pédagogie, bien sûr, dans l'optique chrétienne, d'une éducation chrétienne. Donc, je laisse la parole immédiatement à monsieur le professeur. Merci beaucoup.
Monsieur l'abbé, mesdames, messieurs, mes chers amis, le titre de cette conférence, celui qu'on vous a donné il y a un instant, est bien le titre que j'avais donné, mais je l'ai un petit peu modifié depuis, et je préfère celui-ci, « La révolution contemporaine de la pédagogie, tentative d'explication ». Alors, vous savez que le monde contemporain est fertile en révolution, en changement de tout genre. Mais la révolution de la pédagogie représente sans doute l'une des plus étonnantes. Depuis les origines de la civilisation occidentale, la manière d'éduquer les enfants était restée la même dans ses caractères essentiels. Et puis tout d'un coup, lors de la décennie 1960-1970, en l'espace donc de quelques années, cette manière a complètement changé. Comparé, les hommes de ma génération se trouvent très bien placés pour faire cette comparaison, parce qu'ils ont connu l'ancienne pédagogie, mais ils connaissent aussi la nouvelle pédagogie par leurs enfants. Eux seuls, peuvent mesurer par expérience le fossé qui sépare les deux époques. Fossé immense. Je dirais seulement que s'il m'était donné de redevenir un écolier, je me sentirais moins dépaysé dans les écoles du temps de Louis XIV que dans les écoles où mes enfants ont étudié. Alors, si vous voulez bien, comparons. Et tournons-nous d'abord vers les anciennes éducations, disons pour nous limiter, vers les éducations de l'Antiquité et celles de l'Occident chrétien. Considérons-les, afin de relever leurs traits communs et essentiels, il ne s'agit pas de les idéaliser. Elles avaient leurs défauts, elles avaient leurs tares. Certaines, par exemple, abusaient des châtiments corporels. Je pense en particulier à ces écoles anglaises du XVIe siècle, ces grammar schools, où il arrivait à des maîtres en colère de tuer des enfants à force de coups. D'autres, comme l'éducation grecque classique, acceptaient la pédérastie. D'autres, enfin, comme le système de formation des cadets prussiens au temps de Bismarck et de Guillaume II, exaltaient l'orgueil humain et la nation divinisée. Donc, il ne faut pas dire « c'était toujours bien autrefois ». Mais il faut considérer les anciennes éducations, trier les plus intéressantes et recueillir leur sagesse quand elles en ont une. L'histoire n'est pas donneuse de leçons, mais elle est dispensatrice de sagesse, à condition, bien sûr, de savoir l'écouter. Et c'est dans ce sens qu'elle est, selon la fameuse formule de l'auteur latin, « maîtresse de vie, magistra vitae ». Le mot éduquer aurait probablement une double étymologie et viendrait à la fois de éducare, qui veut dire nourrir en sens premier, et de éduquere, qui signifie tirer hors d'eux. Et si nous admettons cette double origine, éduquer voudrait dire alors nourrir un enfant physiquement, intellectuellement, spirituellement, pour qu'il puisse sortir de sa coquille et devenir ce qu'il est. Le mot nourriture est très important. Toutes les anciennes éducations étaient nourriture. On disait qu'elles formaient, qu'elles élevaient, qu'elles dressaient, mais que surtout elles nourrissaient. Les anciens pédagogues voyaient dans l'esprit de l'enfant non pas une boîte vide à remplir, ni une masse de cire molle à modeler, mais un organisme vivant à nourrir. Pour dire éduquer, d'ailleurs, l'ancien français de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle disait toujours nourrir, et l'adage nature passe nourriture, ce qui veut dire la personnalité de l'enfant est plus forte que toute éducation, date de cette époque-là. Alors comment nourrissait-on ? Mais on nourrissait d'abord par les bonnes mœurs et par la piété. L'expression « bonne mœur » est tombée aujourd'hui en désuétude. Je ne sais pas si vous l'employez dans ce pays, mais chez nous, on en parle de moins en moins. Elle avait alors, je parle début de l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle et encore le 19e, elle avait alors un sens très large. Elle signifiait non seulement la bonne conduite morale, l'honnêteté, mais encore une manière de vivre sociable, respectueuse du prochain. Former l'enfant aux bonnes mœurs voulait dire le préparer à la vie harmonieuse en société. Et du XVIe au XIXe siècle, en France, mais d'ailleurs aussi dans tous les pays d'Europe, cet art de vivre a eu un nom, il s'appelait civilité. Civilité. Nos arrière-grands-mères parlaient de civilité puérile et honnête. Et qu'est-ce que c'était que rendre un enfant civil ? Rendre un enfant civil, c'était lui enseigner les bonnes manières et les usages reçus. Enseignement méthodique et codifié comme tous les autres, il y avait des manuels pour cela, comme il y avait des manuels de grammaire ou de catéchisme. Seulement, voici un de ces manuels. Vous voyez, il est vieux. Tous les livres de classe sont très vieux, très fatigués, et souvent même, on ne les conserve pas. J'ai beaucoup de chance de posséder celui-là qui date de 1672. C'est un manuel de civilité. Donc il y avait des manuels de civilité, c'était des manuels très concrets, très pratiques, et qui se présentaient sous la forme du catéchisme, c'est-à-dire sous la forme de questions et de réponses. On ne s'y perdait pas en considérations générales, abstraites, on s'occupait de la vie de tous les jours. Chapitre 1er, la tenue du corps. Chapitre 2, le lever et le coucher. Chapitre 3, l'habillement. Chapitre 4, les prières quotidiennes. Chapitre 5, la tenue à table. Chapitre 6, les visites aux personnes de considération. Chapitre 7, la correspondance. Comment écrire les lettres, comment y répondre avec des formules pour toutes les circonstances de la vie. Voilà. Alors, la tenue du corps, je peux vous en donner un exemple. Chapitre 1, de toutes les parties du corps. Section 1, de la tête. Demande, comment faut-il tenir la tête pour avoir bonne grâce ? Réponse, il faut tenir la tête droite sans nul effort. Demande, comment les orgueilleux tiennent-ils la tête ? Ils la tiennent avec effort, cela fait un air guindé, suffisant et qui tient du pédant. Demande, comment les paresseux tiennent-ils la tête ? Réponse, ils la baissent entre les deux épaules. Demande, comment les hypocrites tiennent-ils la tête ? Réponse, ils la laissent pendre d'un côté ou d'un autre. Voilà. Et ainsi de suite. Le lever et le coucher. Alors, je prends un exemple dans le lever et le coucher. Chapitre 2, du lever et du coucher. Vous savez, ce sont des moments très importants dans la vie d'un enfant, dans la vie quotidienne. C'est toujours le moment le plus dur, d'ailleurs, pour les parents, de lever les enfants, mais surtout les coucher. Alors, section 1, du lever. Demande. À quelle heure un enfant doit-il se lever ? Réponse, on ne saurait prescrire une même heure à tous, car le faible et le fort ne vont point d'un même pas. Le malade et le saint ne doivent pas vivre de la même façon. L'enfant, néanmoins, doit se lever le plus matin qu'il pourra. Demande, pourquoi doit-il se lever le plus matin qu'il pourra ? Réponse, pour gagner du temps, parce que c'est un défaut de trop dormir. Demande, doit-il se lever promptement ? Réponse, il se lèvera promptement sans prendre du temps pour se réveiller, de peur de donner lieu à la paresse. Demande, pourquoi ne doit-il point sortir de la chambre à demi-vêtu ? Réponse, parce que cela est contre la bienséance. Alors après l'habillement, il y a un chapitre sur le chapeau, par exemple, comment il faut tenir son chapeau sur sa tête. Il ne faut pas l'avoir sur les yeux, il ne faut pas l'avoir de côté non plus, parce que ça fait un peu voyou. C'est expliqué assez longuement. Ah oui, tout est prescrit, vous voyez, il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait, cette civilité est très pratique. Section 5 du chapeau. Demande, un enfant doit-il porter son chapeau trois couchées sur les yeux? Réponse, non. Cela marque un railleur ou un traître qui ne veut point être connu. Doit-il le porter sur une oreille? Non, c'est la coutume des vendeurs de chansons. Demande, peut-il porter les bords de son chapeau retroussés et des plumes sur son chapeau? Réponse, cela dépend de sa condition et de la mode. Et ainsi de suite. Et comment ôtera-t-il son chapeau en saluant? Il l'ôtera de la main droite, entièrement et de bonne grâce. Alors la tenue à table fait l'objet de prescriptions extrêmement précises. C'est là peut-être que la civilité s'applique le plus, car il s'agit de distinguer l'enfant de l'animal, de lui apprendre qu'il ne doit pas manger comme un animal. Alors ça c'est très très important. Alors j'ai là, à partir de la page 123, ces chapitres de la tenue à table, et je vous donne un exemple, c'est qui concerne, ah oui, la fourchette et la cuillère. Section 9, la fourchette et la cuillère. Demande, comment faut-il qu'un enfant se serve de la fourchette et de la cuillère? Réponse, il ne doit pas les prendre à pleine main comme un bâton, mais il les doit tenir entre le pouce et le second doigt. Deuxièmement, il ne doit pas lécher ni l'une ni l'autre, mais il doit prendre proprement ce qu'il y a ou en laisser le moins qu'il pourra. Il est recommandé aussi de ne pas essuyer le couteau et la fourchette à la nappe, ni avec son pain, mais plutôt avec un petit morceau de pain qu'il laissera sur l'assiette. Doit-il porter la viande à la bouche avec la fourchette? Oui, car il est très indécent de toucher avec les doigts à quelque chose de gras, à quelque sauce ou à quelque sirop. Puis alors viennent les visites, la manière de s'asseoir, la manière de se lever, la manière de parler, la manière de saluer. Enfin, vous voyez, c'est très précis, c'est vraiment une sagesse pratique. C'est une règle de vie conforme à la nature humaine. On peut dire que la civilité est humaniste au sens le plus élevé du terme, parce qu'elle enseigne à l'enfant à se respecter lui-même. Et c'est pourquoi une grande attention est donnée à la tenue à table. Donc, éducation des bonnes mœurs, éducation de la piété également. Alors, bien sûr, de la piété chrétienne. Il y a des chapitres dans les manuels de civilité sur la visite à l'église, par exemple, sur la prière du matin. Mais le mot piété a un sens plus général. Le mot piété signifie aussi respect et reconnaissance. Respect des parents. Respect des personnes âgées de la famille, mais surtout respect des parents. Et les manuels de civilité insistent beaucoup sur le salut matinal. L'enfant doit dire bonjour le matin quand il se lève, n'est-ce pas? Ça, c'est un principe que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants. Je n'y suis vraiment pas parvenu, parce que quand ils se levaient, ils étaient de mauvaise humeur et ils ne voulaient pas me dire bonjour. Mais je leur ai demandé quand même, et ça, ils exigeront cela de leurs propres enfants. Vous savez peut-être comment dans la cité antique, ce livre fameux, ce grand classique, Fustel de Coulanges, définissait la piété des Grecs et des Romains. L'obéissance du fils envers le père, l'amour et le respect qu'il portait à sa mère, c'était de la piété. Pietas erga parentes. Le respect que les parents vouaient à leurs enfants, c'était encore de la piété. Pietas erga liberos. Tout était divin à cause de la piété dans la famille. Donc être pieux, c'était respecter les siens vivants et morts. Et c'est pourquoi ce devoir s'étendait aussi à ceux que j'appelle les parrains des âmes, les héros et les saints. Et vous touchez ici à un des secrets de l'ancienne éducation, la valeur de l'exemple héroïque et de la méditation de la renommée. Je me souviens de ce passage de l'Iliade où la déesse Athéna exhorte l'enfant Télémaque. Laisse-la, lui dit-elle, les jeux d'enfant, ce n'est plus de ton âge. Écoute la renommée que chez les humains eut le divin Oreste. Et vous savez que les histoires du passé sont pleines d'actions extraordinaires, accomplies par de très jeunes gens. On entrait jeune alors dans la carrière, parce qu'on avait devant soi dès la petite enfance l'exemple des grands hommes et que l'on apprenait très tôt le récit de leurs exploits. Ce qui m'amène d'ailleurs à la communication du savoir, à l'instruction telle qu'on la pratiquait dans ces anciennes éducations. Alors je fais ici, parce que je ne peux pas entrer dans un grand détail, je fais ici quelques observations assez rapides. J'observe en particulier que dans ces anciennes éducations, la méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture avait toujours été la même, a toujours été la même, allant comme il se devait du simple au complexe, commençant par les lettres, continuant par les syllabes et finissant par les mots, et cela immuablement depuis les écoles du temps d'Homère jusqu'à celles du premier XXe siècle. J'observe ensuite que la mémoire a toujours été exercée depuis le plus jeune âge et que pendant des millénaires, savoir n'a jamais été que savoir par cœur. J'observe que la poésie a toujours tenu la plus grande place dans les exercices de mémoire, la véritable poésie, la grande poésie, l'enfant grec apprenant l'Iliade et l'Odyssée, l'enfant romain, Homère et Virgile, l'enfant chrétien des temps carolingiens, Virgile et les psaumes. Et nos arrière-grands-parents savaient par cœur des centaines de vers, et ma génération, je dois le dire, n'a pas été moins bien partagée. Nous récitions Villon, Ronsard, Malherbe, Chénier, Lamartine, Hugo, Nerval, le comte de Lille et quelques autres. Et nous n'avons pas oublié, on nous dit par exemple « France, mère des arts, des armes et des lois ». On nous dit « Ta douleur du Perrier sera donc éternelle ». On nous dit souvent sur la montagne, à l'ombre d'un vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Ou bien encore, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un trait, nous débitons le reste. Cette poésie fait partie de notre substance. Ces vers ornent à jamais les temples de nos mémoires. Bienfaisante poésie qui nous console dans nos vieux jours et nous défend de la laideur. Je pense qu'elle ne servait pas seulement à exercer la mémoire, elle donnait le sens de la beauté, c'était l'éducation par la poésie. Alors je dois faire encore deux constatations sur ce sujet de l'instruction. La première au sujet de l'art de s'exprimer, et la seconde concernant l'apprentissage. Je constate que l'art de s'exprimer de manière claire et convaincante a toujours été le but principal des études et que tous les anciens systèmes d'instruction, celui de la Grèce, celui de Rome, celui de l'Antiquité chrétienne, ceux des anciens collèges des Jésuites et des vieux lycées du XIXe siècle, furent ordonnés à cette fin. S'instruire, c'était d'abord et surtout apprendre à bien s'exprimer. Alors cela se faisait en plusieurs étapes, on apprenait d'abord à composer, ensuite à rédiger, et enfin, c'était la fameuse partie, la prononciation, à prononcer convenablement, avec les gestes qui convenaient. Pas trop de gestes non plus, pas d'agitation, mais des gestes qui accompagnaient la parole. Il y avait des leçons de diction. Cet enseignement, en Grèce, à Rome, et jusqu'au XIXe siècle en Occident, portait le nom, vous le savez, de rhétorique. Discipline venue de la Grèce, romanisée ensuite, enfin transmise par Rome à la chrétienté. Saint Augustin a écrit un traité de rhétorique chrétienne, le De Doctrina Christiana, et les jésuites appelleront rhétorique la classe la plus élevée de leur collège avant les classes de philosophie. Au début de ce siècle encore, les élèves de première, la première c'est la plus haute classe de notre secondaire en France, les élèves de première étaient qualifiés de rhétoriciens parce qu'ils étudiaient la théorie de la rhétorique, et j'ai porté moi-même ce nom de rhétoricien, mais on ne faisait déjà plus beaucoup de théorie. La théorie de la rhétorique, l'invention, la disposition, l'élocution, la prononciation. Quant à la pratique, on formait depuis la plus petite classe du secondaire, et à 10 ans, les enfants étaient déjà des petits rhéteurs en herbe, à 12 de véritables petits orateurs. Et pourquoi tant d'importance donnée à la rhétorique? Parce que Boileau le dit, vous le savez, ce qui s'énonce bien, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. La rhétorique, pensait-on, apprenait à clarifier sa pensée, elle servait aussi à communiquer avec ses semblables et à les persuader. La rhétorique, comme dit Aristote, c'est l'art de persuader. Et comme tout art, celui-ci s'apprend parce que si l'on est poète, on devient orateur. Il y faut beaucoup d'exercices, c'est un grand apprentissage. Ce qui m'amène à l'apprentissage, c'est un trait commun à toutes ces vieilles pédagogies, qu'elles éduquent ou qu'elles enseignent. Rien ne s'y fait sans apprentissage. Sans l'exercice quotidien, sans l'humble exercice artisanal sous le contrôle du maître. Le contrôle est aussi important que l'exercice, et le maître est plus important que tout le reste. Car ce maître-là, ce n'était pas un débitant de savoir, un distributeur de savoir, comme on en voit dans les couloirs des universités et de ses distributeurs. Je parle des distributeurs à café, mais dans les amphithéâtres, il y a aussi des distributeurs de savoir. Il n'était pas non plus l'inventeur de la méthode miracle, il était celui qui guidait la main de l'enfant, écrivant avec lui, lisant, réfléchissant même avec lui. Cet homme, peut-on dire, ne distribuait pas sa science, il la communiquait. Il corrigeait aussi, il corrigeait les devoirs. Oh, je me souviens de ces interminables corrigés. Interminable, 1h30 pour corriger une version latine. C'était terrible, terrible. Le professeur passait de table en table, nous faisait une honte mortelle pour un faux sens. Et alors, je ne parle pas des contresens. Et c'est après seulement cette correction très longue, très minutieuse, qui avait été précédée par la correction manuscrite sur la version elle-même, la version qui était couverte d'inscriptions. Le texte qu'on avait écrit était hachuré, couvert d'observations souvent très sévères, et puis il y avait cette correction orale qui durait très longtemps, et enfin on passait à la leçon. Mais l'essentiel du temps scolaire, en latin, en grec, et en langue vivante aussi, était consacré à ces corrections. Et puis alors on corrigeait les enfants aussi, on ne corrigeait pas que les devoirs. Et d'ailleurs depuis que le monde est monde, les éducateurs ont toujours corrigé les enfants. Si tu fais un seul jour de négligence, dit un scribe égyptien, tu seras frappé. L'oreille du jeune homme est sur son dos, il n'écoute que celui qui le frappe. Ce sont des propos scandaleux, ce sont des usages barbares, mais c'était ainsi. Pendant des siècles et des siècles, les petits hommes ont su qu'ils seraient corrigés s'ils n'apprenaient pas. Tout s'apprenait par apprentissage, il n'y avait pas d'autre loi. Tout ce qu'on pouvait apprendre, non seulement la lecture, non seulement le latin, mais encore l'art d'écrire. C'est Boileau qui nous dit, encore Boileau, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. L'art de commander, c'est le poète Malherbe qui écrit du roi Henri IV. Nous sommes sous un roi si vaillant et si sage, et qui si dignement a fait l'apprentissage de toutes les vertus propres à commander. L'apprentissage des vertus propres à commander. Et bien sûr, on apprenait par apprentissage le métier, la profession. Chaque métier avait son temps d'apprentissage, et pas seulement les métiers manuels. Mais dans les professions non manuelles, l'apprentissage, je pense au Moyen-Âge, je pense à l'ancienne France du 16e, 17e, 18e, l'apprentissage consistait surtout à regarder faire. Dans l'ancienne France, un jeune avocat ne plaidait jamais sans avoir plusieurs années durant écouté plaider. Un jeune officier ne commandait jamais s'il n'avait pendant longtemps regardé commander. Pareillement pour le roi. Quand le roi Henri IV tenait conseil, son fils, le futur Louis XIII, était assis à ses côtés. Dès l'âge de 10 ans, le petit roi Louis XV occupait au conseil le fauteuil royal, assistait au travail du régent avec ses ministres et apprenait ainsi à décider. Il s'ennuyait, le pauvre. Alors il amenait son petit chat, et le chat allait sur la table, et les ministres n'osaient pas déranger ce petit chat de peur de déplaire au jeune roi. Voyez-vous, il y avait un esprit dans tout cela. Quel esprit ? Un mélange, me semble-t-il, de modestie et de confiance. De modestie en acte. L'enfant était invité à la modestie. Les anciennes éducations leur recommandaient la modestie. Et elles la pratiquaient aussi elles-mêmes, car elles limitaient leurs ambitions. Elles ne surestimaient pas leur pouvoir. Elles étaient persuadées de ce principe que nature passe nourriture, c'est-à-dire que la nature de l'enfant est plus forte que l'éducation, que la nature passe avant l'éducation. et pourtant elles avaient confiance dans l'enfant. Confiance surtout dans les capacités de l'intelligence enfantine. C'est peut-être cela d'ailleurs ce qui est le plus important. Je remarque ceci, les apprentissages techniques, si je puis dire, ceux de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, du style, étaient lents, progressifs. Mais l'initiation aux idées générales et la formation de la faculté d'abstraction se faisait très vite et très tôt. Un grand historien de l'éducation antique, Henri Maroux, l'a fait observer pour l'éducation donc, des Grecs et des Romains. À peine, écrit-il, l'enfant savait-il lire, on lui donnait les historiens, les orateurs, les poètes et même les philosophes. Et moi je commenterais en disant, en somme, on le nourrissait tout de suite avec la meilleure nourriture. Je l'ai remarqué aussi pour les écoles de l'ancienne France, ces écoles qui vous avez connues ici dans ce pays. Quels livres donnait-on aux enfants, aux petits-enfants qui venaient d'apprendre à lire ? Le psautier et le catéchisme, mais pas un catéchisme réducteur, un catéchisme complet, bien que simple évidemment et résumé. Que font lire les religieuses, je pense aux Ursulines de France, mais aussi du Canada, les dames de Saint-Maur, qui ont été très nombreuses en France, que font-elles lire ces religieuses à leurs petites élèves des écoles populaires à la fin du règne de Louis XIV, des enfants de 6 à 12 ans, des petites filles de 6 à 12 ans, l'imitation de Jésus-Christ. Et j'ai retrouvé dans les archives de la ville de Toulouse trace d'une commande faite par la ville de Toulouse qui subventionnait les écoles des Dames de Saint-Maur et qui achetait 200 exemplaires de l'imitation de Jésus-Christ pour les petites filles de ces écoles populaires. Parce qu'on jugeait alors que l'enfant était né pour la connaissance, comme l'oiseau pour voler. On était même persuadé, cela vous surprendra peut-être, qu'il y avait beaucoup d'enfants intelligents et doués pour les études. Cela m'a surpris d'ailleurs quand j'ai découvert cela. Le vieil auteur romain, Quintilien, l'a dit. On trouvera, écrivait Quintilien, beaucoup d'enfants intelligents et disert. Cela, l'activité de l'esprit, est naturelle à l'homme. Les oiseaux sont faits pour voler, les chevaux pour courir, et les bêtes sauvages pour déchirer leur proie. Mais nous, humains, nous avons en propre l'activité de l'esprit et la subtilité. Et le vieux rhéteur ajoutait, ce n'est pas le talent qui manque à la plupart des enfants, c'est l'application. Oui, ça me fait penser, récemment j'ai relu les mémoires, pour me distraire, car il faut bien se distraire un peu de temps en temps, les mémoires de Sacha Guitry. Sacha Guitry a été un grand auteur de théâtre, un grand acteur et qui est plein d'humour, et qui a été un très mauvais élève dans son enfance, puisqu'il a été 14 fois renvoyé des établissements où le mettait sa famille. Bon, mais il fait des observations sur l'éducation qui sont pleines d'intérêt, qui rejoignent une scène de Quintilien. Il dit qu'entre 8 et 14 ans, les enfants sont toujours très intelligents. Et après, ils le sont moins, dit-il. Ils le sont moins. Et il se demande pourquoi. Je terminerai, n'est-ce pas, sur ces anciennes éducations, en disant qu'elles se faisaient une assez haute idée de l'homme. La plupart d'entre elles, vous le savez, ont proposé aux enfants un modèle d'homme, un idéal humain. Ce furent entre autres l'homme beau et bon, Kalos Kagathos d'Athènes, le chevalier de l'Europe chrétienne, défenseur de la veuve et de l'orphelin, le virtuose de la Renaissance. Le virtuose, c'est l'homme qui est savant, qui sait plaire dans le monde. L'honnête homme des temps classiques et le gentleman victorien. Il est certain que ces idéaux ne se ressemblaient pas beaucoup. Certains valaient mieux que d'autres, mais tous exigeaient la même application d'esprit, la même contention, le même effort constant pour dominer les pulsions et maîtriser les appétits. Si la plupart des anciennes éducations peuvent être qualifiées de grandes, c'est parce qu'elles formaient à la maîtrise de soi. Certaines ont été plus grandes que d'autres. Quand sera venu l'heureux moment de la restauration des études et de la renaissance de l'éducation, nous nous tournerons vers elles. Elles les ont aimées de l'amour du Christ, Le Christ rappelait au VIe siècle le pape Léon le Grand, le Christ aime l'enfance par laquelle il a débuté dans son âme comme dans son corps. Le Christ aime l'enfance, maîtresse d'humilité, règle d'innocence, modèle de douceur. Voilà, alors maintenant il nous faut comparer. Il nous faut comparer les anciennes éducations à celles d'aujourd'hui. Alors j'entends par éducation d'aujourd'hui l'éducation officielle, la pédagogie prônée habituellement, alors ça c'est le cas français, mais je crois que le cas du Québec est très très proche, l'éducation prônée habituellement et regardée comme normale par l'État, par les pédagogues professionnels, par les médias, par la plupart des associations de parents et par les autorités ecclésiastiques. Pédagogie officielle, pédagogie habituelle, même si les familles, quant à elles, ne s'y conforment pas toujours. Comparaison facile à faire. La différence saute aux yeux. À la limite, je n'aurais même pas besoin de la faire. La différence saute aux yeux. L'éducation d'aujourd'hui n'a rien à voir, l'éducation et l'instruction, n'ont rien à voir avec les anciennes éducations et instructions dont nous venons de parler. Elles sont autres. Nous n'y retrouvons aucun, mais vraiment aucun, des éléments traditionnels. Ni la nourriture, on ne nourrit plus les esprits des enfants, on y emmagasine des connaissances que l'on enseigne ensuite à gérer grâce à une méthode dite de gestion mentale, ni la formation aux bonnes mœurs et à la piété, ni l'entraînement intensif de la mémoire dès la petite enfance, ni l'éducation par la poésie, ni l'admiration des grands hommes, ni l'art de bien dire, ni enfin la pratique de l'apprentissage. C'est donc autre chose. Mais cette éducation n'est pas seulement autre, elle est contraire. Je veux dire qu'elle fait le contraire. Non seulement elle ne forme pas aux bonnes mœurs, mais encore par ses lectures, ses exemples, ses images, elle détourne souvent, je ne dis pas toujours, elle détourne souvent les enfants de l'honnêteté ainsi que du respect d'eux-mêmes et des autres. Non seulement elle n'élève pas leurs âmes vers le beau, mais encore elle leur inflige souvent, je ne dis pas toujours, le spectacle de la laideur matérielle et morale. Ici, je pense en particulier aux tristes auteurs des programmes de français dans notre pays, toujours Émile Zola, toujours Maupassant, toujours Aragon, et je pourrais en citer bien d'autres. Non seulement l'école s'y prend mal pour leur enseigner à lire, mais encore elle réussit à les dégoûter des livres et de la lecture, puisque par sa faute, beaucoup ne savent pas lire correctement. C'est à mon avis l'origine du dégoût de la lecture chez nos étudiants. La peur que leur inspirent les livres, peur véritablement physique, à tel point que je leur dis souvent, habituez-vous, allez dans la bibliothèque, asseyez-vous. Même si vous ne lisez pas, peu à peu les livres vous deviendront plus familiers. Et quand vous prenez des livres, vous n'êtes pas obligé de les lire, mais mettez-les sur votre table autour de vous. Et ces livres, peu à peu, n'est-ce pas, vous deviendront moins étrangers, moins hostiles. Je pense que la méthode de lecture abracadabrante, absurde, que l'on a infligée à mes enfants, et c'est pour ça que je puis en parler, ce n'est pas le professeur ici qui parle, c'est le père de famille. Cette méthode de lecture est à l'origine, bien souvent, du dégoût de la lecture. Je ne parle pas de l'orthographe. Non seulement la mémoire n'est pas exercée, elle est aussi méprisée. On répète aux enfants depuis le plus jeune âge que savoir par cœur n'est pas savoir et qu'il ne faut surtout pas apprendre par cœur. Voilà pour l'instruction, mais pour l'esprit de l'éducation, c'est la même opposition. L'ancien esprit, je vous le disais tout à l'heure, était fait de modestie, était fait de rigueur, était fait de confiance. Le nouvel esprit, si l'on peut encore parler d'esprit, est laxisme, volonté de puissance, négation de l'intelligence. Laxisme, on ne corrige plus, on ne punit plus, on ne sévit presque jamais. Il ne faut pas traumatiser les enfants. Volonté de puissance, L'éducation nouvelle, vous le savez, n'accepte pas la primauté de la nature de l'enfant. Elle se fait fort de le modifier, de le modeler, comme on modèle la cire. Elle croit qu'elle peut tout et qu'il suffit de trouver la bonne méthode. Et c'est pourquoi les nouveaux pédagogues ne voient pas de différence entre les enfants, ni différence de nature, ni d'intelligence. Ou s'ils en voient, ils sont persuadés que ces différences ne comptent pas dès qu'il s'agit de l'acquisition des connaissances. Dans un livre récent qui a été publié en 1988 par deux pédagogues français et qui s'intitule « Tous les enfants peuvent réussir », les auteurs proposent une méthode dite de gestion mentale qui leur paraît infaillible et irrésistible. Aucun élève n'y résistera et tous réussiront. De l'intelligence des enfants, de leur intellectualité, il n'est pas question dans ce livre. Les auteurs remplacent l'intelligence par la gestion mentale. L'intelligence pourrait avoir des ratés, mais la gestion mentale, pensée par les pédagogues, n'en a pas. Quant à la substance des connaissances ainsi acquises, nos pédagogues ne s'y intéressent pas vraiment. Comme l'écrit l'un des deux, je cite, « Il ne s'agit pas de coincer les enfants dans un savoir, mais de les aider à gérer au mieux leurs connaissances. » C'est tout à fait révélateur, ne pas les coincer dans un savoir. Ce n'est pas le savoir qui importe. Telle est la nouvelle connaissance intellectuelle. On remplit avec quoi ? Peu importe. La démarche, écrivent encore nos pédagogues, la démarche, la méthode, compte plus que le résultat. En somme, on est ici dans le commerce et non pas dans l'enseignement. L'acquisition des connaissances est devenue affaire de gestion, de management. Il y a des méthodes infaillibles pour cela qui parlent encore d'éclairer et de former les intelligences. Il faudrait pour cela croire encore à l'intelligence des enfants. Or, personne n'y croit plus. Je veux dire que personne ne croit plus à l'intellect, à cette haute faculté qui permet de former des concepts et des jugements. À plus forte raison, personne ne croit que les petits-enfants possèdent cette intelligence-là. Tout le monde pense, à la suite de Rousseau, qu'ils en sont totalement dépourvus. L'acquiert-il alors avec l'âge de 7 ans, cet âge appelé autrefois de raison? Sans doute pas, mais quand alors? Nul ne le sait, peut-être jamais. D'où le temps perdu dans les premières années, à tant de séances de griffonnage, ces affreux dessins de modelage, d'audiovisuel, si bien qu'à l'âge de 7 ans, la plupart des enfants ne savent encore rien. C'est tout juste s'ils savent annonner leurs lettres. À 12 ans, ils ne savent encore rien. On les a entretenus dans la débilité mentale. Quand on sait que tout ce qu'un enfant apprend avant l'âge de 12 ans, il le retient toute sa vie, quel gâchis! Quel crime de ne lui avoir rien appris. Autrefois, on améliorait plutôt les gens bêtes. On les rendait moins bêtes. Et certains même intelligents. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans chaque classe, il y avait ce qu'on appelait le cancre, qui n'était pas d'ailleurs forcément bête. Mais enfin, quelquefois, il l'était. C'était le dernier de la classe. Mais il montait avec les autres. Et j'en ai vu devenir certainement beaucoup plus intelligent. Aujourd'hui, on rend les gens intelligents bêtes. C'est la démarche inverse. C'est un grand changement. Je crois pouvoir dire qu'il n'y en a jamais eu d'aussi grand. Ce changement s'est produit en France, mais je crois qu'il s'est produit aussi chez vous, dans la décennie 1958-1968, par les actions conjuguées de l'État, des pédagogues et des gens d'église. Il faut dire pourquoi il s'est produit en France, pourquoi il s'est produit dans le reste du monde, car il s'est produit dans beaucoup d'autres pays du monde, et j'ai l'impression à peu près à la même époque, il faudrait expliquer pourquoi d'ailleurs, il s'est produit à peu près partout dans le monde à la même époque, et il faudrait dire donc pourquoi. Pourquoi s'est-il produit? Je pense qu'il faut distinguer les causes immédiates, particulières, propres à chaque pays et qui tiennent à la conjoncture politique. En France, le retour au pouvoir du général de Gaulle. dans votre pays cette révolution que vous appelez tranquille, et les causes profondes qui sont, je pense, communes à tous les pays. Les causes profondes, mais je suis désolé, n'est-ce pas, parce que c'est une question un peu abstraite, mais il est nécessaire de l'aborder. Les causes profondes, les origines sont intellectuelles. La révolution pédagogique s'est faite dans la théorie avant de se réaliser dans la pratique. Il y a eu d'abord une très longue élaboration de la théorie. Cette pédagogie contemporaine dont vous voyez les applications aujourd'hui, elle vient de loin, de très loin. Elle a commencé à se construire au temps de la Renaissance, au XVIe siècle, il y a 4 siècles. Il faut bien voir, si l'on veut bien comprendre la pratique d'aujourd'hui, que ce n'est pas une invention ex nihilo à partir de rien de notre époque, mais qu'elle est enracinée, cette pédagogie d'aujourd'hui, dans 4 siècles de philosophie de l'éducation. Elle peut se réclamer, cette pédagogie, de grandes autorités. Erasme, Louis Vives, Montaigne au XVIe siècle, Descartes, Malebranche, Comenius, Locke au XVIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, Helvétius, D'Holbach, Pestalozzi au XVIIIe siècle. Et j'arrive au temps contemporain, alors là les noms sont très nombreux, Kilpatrick, Dewey, Freinet, Maria Montessori, Alexandre Makarenko, je ne cite que les noms les plus connus. Beaucoup de noms, donc. Plusieurs écoles, des apports successifs, des développements nouveaux à chaque époque. Certes, mais en définitive, l'unité l'emporte sur la diversité. À bien regarder toutes ces théories, à bien regarder, on aperçoit entre elles une grande unité. Quelques idées me semblent revenir presque toujours. Quelques idées. J'en ai dénombré 10. Les voici. Les voici, je vous les livre comme ça. Première idée que j'ai retrouvée dans presque tous les théoriciens que j'ai énumérés et dans d'autres. Première idée, l'idée que l'enfant est malléable à volonté. Deuxième idée, que l'éducation peut tout et même pour certains, fait tout. L'enfant est la fabrication de l'éducation. Les seules inégalités viennent des différences d'éducation. Mais pour réaliser ce projet, l'éducation doit souvent s'opposer à la famille. Troisième idée, l'idée que pendant longtemps, et même pour certains, bien après l'âge de raison, l'enfant demeure incapable de former des idées ou des jugements. Quatrième idée, l'idée que toute éducation doit être ordonnée par rapport à l'intérêt présent et aux besoins vitaux de l'enfant. Cinquième idée, l'idée qu'il ne faut pas aller contre la volonté de l'enfant sous peine de détruire cette volonté et d'annihiler la personnalité de l'enfant. Il vaut mieux substituer sa volonté à la sienne. Sixième idée, l'idée qu'il n'existe pas chez l'enfant un désir purement gratuit et désintéressé de savoir. Pour cette bonne raison, qu'il n'existe pas chez les êtres humains une intelligence dont l'unique finalité soit de connaître. Septième idée, l'idée que le savoir n'est pas une fin en soi et qu'il ne faut donc pas instruire l'enfant simplement pour qu'il soit instruit, mais pour former son jugement, sa volonté, son cœur, sa sensibilité, ses vertus, que sais-je encore. Huitième idée, l'idée que l'école doit préparer à la vie et que c'est même là sa fonction essentielle. Neuvième idée, que les études purement spéculatives et surtout celles des humanités sont inutiles ou peu utiles parce qu'elles ne préparent pas à la vie. Et dixième idée, l'idée que l'éducation a pour mission de fabriquer un homme bien adapté à la société, c'est-à-dire utile et un bon citoyen. Et, alors, si vous ne me croyez pas, je me suis dit, ils ne vont pas me croire quand je vais leur lire cette liste. Alors, j'ai des exemples, j'ai des citations, je ne vais pas vous en lire des quantités, mais je reprends mes idées. L'idée que l'enfant est malléable à volonté, c'est Erasme qui a dit cela le premier. Erasme dit, l'enfant est une cire molle, une argile, une masse de chair non dégrossie, et l'enfant et le pédagogue doivent la sculpter. Ensuite, l'idée que l'éducation peut tout. Alors là, j'ai quantité d'exemples. Il n'est rien d'impossible à l'éducation. Elle fait danser les ours. C'est Helvétius, le philosophe Helvétius au XVIIIe siècle, qui écrit cela. Mais le philosophe, le pédagogue Makarenko, le pédagogue soviétique au XXe siècle, écrit « L'éducation est un processus social. Le matériau dont sera formé l'homme à venir ne peut se réduire à un choix limité d'impression. La vie soviétique, dans ses innombrables manifestations, constituera l'enfant. » « Si l'éducation ne peut pas tout, écrit Olivier Reboul, qui est un disciple de Freinet, « si l'éducation ne peut pas tout, elle peut seule s'attaquer à la racine de l'inégalité, qui est la différence d'instruction. » Troisième idée, que la réussite d'une éducation dépend... L'idée que pendant longtemps, et même pour certains, bien après l'âge de raison, l'enfant demeure incapable de former des idées et des jugements. Alors là... Nous avons également beaucoup de citations. Jean-Jacques Rousseau, « Avant l'âge de raison, écrit-il, l'enfant ne reçoit pas des idées, mais des images. Je dis donc que n'étant pas capable de jugement, les enfants n'ont pas de véritable mémoire. » Bon. Cinquième idée, que toute l'éducation doit être ordonnée par rapport à l'intérêt et aux besoins de l'enfant. Là, c'est Maria Montessori qui nous donne peut-être la citation. Non, c'est Dewey, l'américain Dewey. L'homme agit toujours, écrit-il, en fin de compte, par besoin et par intérêt. Pourquoi faudrait-il ignorer cette loi primordiale de vie lorsqu'il s'agit de l'enfant et le faire travailler sans que son activité réponde à aucun besoin intérieur ? Donc l'intérêt, il faut se fonder sur l'intérêt. Il n'existe pas de désir purement gratuit et désintéressé de savoir. Bon, c'est l'idée, c'est le corollaire de l'idée précédente. Le savoir pour le savoir n'a pas de sens. Alors là, beaucoup de citations. C'est Comenius qui écrit le premier. L'instruction qu'on ne convertit pas en moralité n'est que ruine. Qu'est-ce donc que le savoir sans la vertu ? Oh, confusion terrible. Le savoir et la vertu, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce donc que la savoir sans la vertu ? Et mieux encore, Bernard Lamy, c'est un grand théoricien de la pédagogie, disciple de Malebranche à la fin du XVIIe siècle. Il écrit cette phrase remarquable. « Notre esprit, et l'esprit des enfants donc, écrit-il, n'est pas fait pour l'érudition. » L'érudition veut dire le savoir dans son langage. « Mais le savoir pour l'esprit. » Mais le savoir pour l'esprit. Notre esprit n'est pas fait pour le savoir, mais le savoir pour l'esprit. Ça, c'est une phrase très importante. Locke écrit, l'instruction est nécessaire, mais elle ne doit être placée qu'au second rang, comme un moyen d'acquérir de plus grandes qualités. Et ainsi de suite. Je termine avec les dernières idées. L'idée, l'école doit préparer à la vie, c'est sa fonction essentielle. C'est Montaigne, le premier, qui dit cela. Il faut enseigner des choses pratiques, dit Montaigne. Il y a beaucoup de textes de lui. Neuvième idée, l'instruction littéraire et humaniste est inutile parce qu'elle ne prépare pas à la vie. C'est Montaigne encore. Fâcheuse suffisance qu'une suffisance livresque. Et enfin, dixième idée, il faut fabriquer un citoyen bien intégré dans la société. Alors là, les textes sont également très nombreux. Voici par exemple Olivier Reboul, disciple de Freinet. « La démocratie, écrit-il, ne peut fonctionner sans démocrate. » Ça, c'est vrai. « Et c'est à l'éducation de les former. » L'éducation doit former les démocrates. Makarenko, dans « L'école des parents », s'adressant aux parents soviétiques, en vous conférant une fraction de l'autorité sociale, l'État soviétique exige de vous d'éduquer comme il faut le futur citoyen. L'enfant est un bloc de marbre, écrit un auteur du XVIIIe siècle, dans lequel il faut trouver le citoyen comme l'artiste y trouvait une figure humaine. Et ainsi de suite. Voilà, alors j'espère vous avoir convaincu que ces idées, je ne les ai pas sorties de mon imagination, qu'elles sont bien dans les auteurs. Évidemment, elle ne se trouve pas chez tous les philosophes de l'éducation, et quand elle s'y trouve, ce n'est pas toujours de la même manière, exprimé de la même manière, mais enfin, je suis frappé de leur persistance. Je suis frappé de voir qu'à plusieurs siècles de distance, elles réapparaissent inchangées. Ainsi, l'idée, je prends cet exemple, l'idée de l'intérêt présent et du besoin Elle est chez Rousseau et vous la retrouvez chez l'Américain Dewey, 2 siècles après, décorée seulement de son nouveau nom, celui d'éducation fonctionnelle. Seulement, voyez-vous, ces idées persistaient, mais on ne les appliquait pas. Elles restaient de pure théorie. Ces idées qui n'avaient jamais été appliquées, ou appliquées seulement d'une manière limitée, à titre expérimental, je crois que c'est Dewey qui avait fondé une école dite expérimentale, ces idées, on s'en méfiait. On pensait que l'éducation était une chose trop importante pour la confier à des théoriciens de la pédagogie. Notre époque, ces idées-là, notre époque les a appliquées. De la théorie, elle a fait la pratique. Voici plus précisément ce qu'elle a fait. D'une philosophie de l'éducation, elle a fait une praxis. Car ces idées que je viens d'énumérer, ce sont des idées philosophiques. Ce n'est pas de la science exacte. Quand Erasme nous dit que le cerveau de l'enfant est une cire molle, quand Helvétius affirme qu'il n'est rien d'impossible à l'éducation, elle fait danser l'ours. Quand Jean-Jacques Rousseau écrit que n'étant pas capable de jugement, les enfants n'ont pas de véritable mémoire. Enfin, quand nous lisons chez Dewey que l'homme agit toujours en fin de compte par besoin et par intérêt, où est la science dans tout cela? Est-ce rien d'autre qu'une philosophie, une conception philosophique de l'homme et de l'enfant? La révolution pédagogique contemporaine s'est faite au nom de la science. En fait, la science y était pour fort peu de choses. En réalité, c'est une philosophie qui l'a emportée. C'est une conception de l'homme et de l'enfant qui a prévalu. Et cette conception n'avait rien à voir avec la science. Il convient, je crois, de rétablir cette vérité. Il convient aussi de bien montrer le caractère utopique de cette pensée pédagogique moderne que l'on nous applique, que l'on applique à nos enfants depuis 30 ans. L'utopie a montré récemment un historien danois, Madame Monica Papazou, historien danois d'origine grecque, dans un remarquable article récent. L'utopie est toujours, dit-elle, l'expression d'un esprit d'abstraction et de système. Elle réduit l'homme à une mécanique sociale, elle assujettit, elle contraint au lieu de libérer. Or, nous retrouvons tous ces concepts dans la pensée pédagogique moderne. Et le dernier des quatre, et le plus inquiétant, y est peut-être le plus marqué. L'utopie contraint, l'utopie enferme. Je citerai seulement 2 exemples pour bien vous montrer que l'utopie pédagogique, que la théorie pédagogique utopique, au lieu de libérer l'enfant, l'assujettit, le contraint, l'enferme. Je prends 2 exemples. C'est celui de la ruse du gouverneur chez Jean-Jacques Rousseau et celui du 3e degré d'obéissance chez Maria Montessori. Vous connaissez peut-être la ruse du gouverneur. Le gouverneur, c'est le maître d'Émile. Rousseau, vous le savez, avait imaginé une éducation idéale, un enfant seul avec un précepteur chargé de son éducation. Ce précepteur s'appelle le gouverneur et l'enfant s'appelle Émile. Bon, et voici que le gouverneur essaie de faire obéir l'enfant. C'est le grand problème, c'est un des grands problèmes de tout éducateur. Comment faire obéir les enfants? Bon, et il n'y arrivait pas. Alors, Rousseau lui donne ce conseil. Que l'enfant croit toujours être le maître et que ce soit vous qui le soyez. Il n'y a pas d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Donc, inversé. Dans le premier cas de figure, c'était le gouverneur qui croyait commander, et en fait, c'était l'enfant qui commandait, en se dérobant constamment. Dans le deuxième cas de figure, l'enfant croit commander, mais c'est le gouverneur qui commande effectivement. Qu'il croit toujours être le maître et que ce soit vous qui le soyez. Il n'y a pas d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. En somme, que l'enfant croit faire ce qu'il veut et qu'en fait, il ne fasse que ce que vous voulez. Et voici Maria Montessori à propos de l'obéissance idéale. C'est ce qu'elle appelle l'obéissance idéale, le troisième degré d'obéissance, qui se réalise, d'après elle, par la substitution de la volonté du maître à celle de l'enfant. Ce dernier devenant alors comme un chien, oui, comme un chien, joyeux de rapporter la balle à son maître. Je n'invente rien, voici le passage. À quoi pourrions-nous rapporter ce phénomène naturel et étonnant de l'obéissance ? Sans doute sur un autre plan, à l'instinct du chien, qui aimant son maître, agit selon sa volonté. Quand le maître lui montre une balle, il la regarde fixement, et quand elle est lancée au loin, il s'élance et la rapporte triomphalement dans l'attente d'un ordre nouveau. Le chien est anxieux de recevoir des ordres, il est plein de joie et accourt pour obéir en agitant la queue. Le troisième degré de l'obéissance chez l'enfant est à peu près cela. Il obéit, impatient, avec une surprenante promptitude. Donc substitution, en quelque sorte, de la volonté du maître à la volonté de l'enfant. L'utopie assujettie, explique Madame Papazou. À ce compte, peut-on trouver plus conforme à l'utopie que ces deux théories de Jean-Jacques Rousseau et de Maria Montessori ? Dans la première, le maître manipule l'enfant à l'insu de ce dernier. Dans la seconde, il remplace la volonté de l'enfant par la sienne. Je crois qu'il faut tirer les conséquences. Si nous devons admettre que la pensée pédagogique a tous les caractères de l'utopie, nous devons admettre aussi que la révolution pédagogique contemporaine est une utopie réalisée. Or, nous avons déjà vu dans ce siècle la réalisation d'une utopie. Il s'agissait de l'utopie politique. Elle s'est réalisée dans le système communiste. Et nous avons vu les fruits de malheur de ce système. Nous savons que la réalisation d'une utopie est quelque chose d'effrayant, quelque chose qui aboutit à la destruction des hommes, des sociétés, des nations. Il est donc à prévoir que la réalisation de l'utopie pédagogique entraînera des effets analogues. D'ailleurs, nous les avons déjà devant nous, ces effets. Je veux parler de ces pauvres enfants, de ces pauvres adolescents, si nombreux maintenant, formés, entre guillemets, par la pédagogie nouvelle, et qui n'ont reçu aucune connaissance solide, aucune formation véritable de l'esprit, et qui se trouvent incapables, et j'en parle par expérience, de réflexion personnelle, cohérente et d'esprit critique logique. Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas avoir cette réflexion, cet esprit critique, mais ils ne peuvent pas. Une grande partie de la génération présente de ces jeunes n'a aucune consistance intellectuelle. Elle existe à peine intellectuellement. Elle peut donc devenir l'objet de n'importe quelle manipulation. L'anthropologie réductrice de la pensée moderne a réussi à imposer son modèle. La pédagogie appliquée, issue de la révolution pédagogique, fabrique maintenant des enfants et des hommes selon ce modèle, et c'est pourquoi nous assistons à la destruction des esprits. Alors permettez-moi pour finir maintenant d'évoquer en quelques mots l'éducation chrétienne. Je n'en ai rien dit ou presque rien jusqu'ici, mais à vrai dire ce n'était pas tout à fait mon sujet. Je traitais de la philosophie de l'éducation et des différentes conceptions de la pédagogie correspondant aux différentes conceptions de l'homme. Il y a la pédagogie et il y a l'éducation chrétienne, ce n'est pas la même chose. La pédagogie est un art ou une science qui a ses propres lois et qui est distincte de la politique, de la religion et de toutes les autres sciences. Bien qu'évidemment, elles doivent se soumettre à la morale et à la religion. La pédagogie doit se conformer à la nature humaine et au bon sens. Mais il me semble très difficile aujourd'hui, pour ne pas dire impossible, de restaurer une véritable éducation. Et là, je crois que beaucoup pourraient dire la même chose, même s'ils étaient incroyants. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui, pour ne pas dire impossible, de restaurer une véritable éducation conforme à la nature humaine, sans revenir à ce que l'on appelle les valeurs du christianisme. Pour sauver l'éducation, pour sauver les enfants, il faut une lumière surnaturelle. La grande menace actuelle contre les enfants vient de l'oubli de leur dignité, de la méconnaissance du caractère unique de chacun d'entre eux. Et c'est pourquoi ils sont trop souvent traités comme des sujets d'expérience, comme des machines, comme des portions façonnables de nature, comme des morceaux du puzzle social. Il me semble que le christianisme est de nature à conjurer cette menace. Selon le christianisme, en effet, chaque âme est unique par sa création et par sa rédemption. C'est le fameux mot de Pascal, « J'ai versé telle goutte de sang pour toi ». Et si chaque âme est unique, chaque intelligence l'est aussi. Une statue de Sainte-Anne, oui, Sainte-Anne, apprenant à lire à sa fille, la Vierge Marie. Alors on voit la sainte debout, la petite fille est devant elle, lui tournant le dos et tenant à la main son livre de lecture. Et Sainte-Anne passe la main droite au-dessus de l'épaule de l'enfant et touche du doigt le livre et montre les lettres. Cette image me plaît beaucoup. Souvent, je me la représente en esprit. J'y vois le symbole de l'éducation chrétienne, l'image vivante de la sollicitude chrétienne pour les enfants. Et cette image de Sainte-Anne, je pense, vous fait naturellement penser au culte de la Sainte Famille, si vivant dans votre pays. Pour conserver le respect des enfants, les familles chrétiennes invoquent la Sainte Famille. Ces familles sont des arches de Noé. Le déluge ne les submergera pas. Un jour, peut-être, on verra la colombe sortir du ciel avec son rameau d'olivier, l'arc-en-ciel briller et le peuple des enfants retrouver le temps de sa libération. Je vous remercie.
Bon, merci d'abord, monsieur le professeur, pour cette conférence merveilleuse. À propos, justement, de vous parler de l'oubli de la dignité des enfants. Et vous parlez de la dignité des enfants, de la dignité naturelle, que l'éducation est un art qui doit se conformer à la nature humaine. Donc, justement, sur cette question de la nature humaine, de la nature de l'enfant, comme telle, l'Église a été maîtresse sur ce qu'est l'être humain, ce qu'est l'être humain. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas, on leur apprend même pas qu'ils ont une âme. Alors, la question de l'âme humaine, faites-vous un lien entre la crise de l'Église et la crise de l'éducation en Occident?
Oh, évidemment, évidemment. D'ailleurs, une coïncidence remarquable dans les dates, une coïncidence chronologique, tout au moins pour la France. Les premiers décrets, ministériels changeant les programmes et les méthodes datent de 1961. Vous savez que le concile commence en 1962, qu'on est déjà dans la phase préparatoire. Il y a évidemment une coïncidence. Cependant, je crois que pour la France, les causes politiques immédiates ont été plus importantes. Ces réformes pédagogiques, elles étaient dans les tiroirs depuis longtemps, mais on ne les sortait pas. On ne les sortait pas, personne n'osait les sortir. Et puis, lorsque le général de Gaulle, en 1958, revient au pouvoir, le Parti communiste négocie. Il négocie avec le nouveau pouvoir. Et c'est donnant-donnant. Soutien. Absence d'opposition, mais réforme des programmes scolaires. Selon le plan communiste Langevin-Wallon de réforme qui avait été mis au point en 1945. Donc, si vous voulez, dans notre cas particulier, il y a eu des causes politiques et, bien entendu, une décomposition religieuse, hein, ça, sans aucun doute.
Je tiens le micro et
oui, je vous en prie, monsieur.
Et à vous remercier pour ces deux conférences que j'ai beaucoup appréciées. Et j'aurais voulu vous demander maintenant il est clair pour tout le monde que l'État a une grave responsabilité dans la décrépitude actuelle de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux. Est-ce que vous pourriez rapidement dire depuis quand vous avez parlé de 58-68, c'est vrai, mais certainement que ça a débuté un peu avant aussi. Depuis quand l'État s'est-il introduit partout, depuis le choix des livres, des méthodes, etc., n'est-ce pas, ce qui est affreux. Et deuxièmement, comme corollaire, dans la situation actuelle, que peut-on faire pour au moins réduire ce rôle de l'État très néfaste? Voilà.
Oui, effectivement, c'est un aspect très important, monsieur, que cette mainmise de l'État sur l'éducation. C'est un aspect que je n'ai pas traité parce que ce n'était pas à proprement parler mon sujet, mais c'est un aspect très important de la révolution pédagogique. Il est certain que lorsque l'État veut faire la révolution pédagogique, immédiatement, toute l'éducation est transformée, puisqu'il est maître de l'éducation. Alors, quand a-t-il commencé à prétendre devenir maître d'école? Bien, en France, cela commence au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle paraissent un certain nombre d'ouvrages où on fait l'apologie de l'éducation dite nationale. C'est par exemple l'ouvrage de La Chalotais intitulé « Essai d'éducation nationale » qui est publié en 1763. Que dit cet auteur? Il dit « Il faut uniformiser l'enseignement. Et le seul moyen de l'uniformiser, c'est de le confier en partie à l'État, ou tout au moins au contrôle de l'État. » Alors vient la Révolution française. Pendant la Révolution, Condorcet, le philosophe Condorcet, lui, alors, demande la création d'un enseignement d'État. Et de fait, la Révolution a créé un enseignement d'État. Les premiers établissements dont les professeurs étaient payés par l'État et qui étaient payés par l'État, ce sont les écoles de la Révolution. Et cet enseignement d'État, mais il n'a fait que croître et embellir au XIXe siècle. Il n'a fait qu'augmenter. C'est ainsi que les choses ont commencé. Et alors maintenant, ben vous savez ce qu'il en est, nous sommes devant un véritable totalitarisme pédagogique, puisque maintenant, le maître d'école, le seul, celui qui fait les programmes, celui qui dit ce qu'il faut enseigner, c'est l'État.
Je me demande si le bon citoyen actuellement, c'est un citoyen manipulable.
Oui.
Et à cette fin, je me demande si la pédagogie moderne amène à la mort de l'intelligence et ensuite à la démagogie. Est-ce que ça, c'est un peu la finalité de la pédagogie moderne?
Bien sûr, bien sûr. Manipuler les gens à leur insu. À leur insu. Et au fond, il y a une grande ressemblance entre la pédagogie et la politique. C'est le même art. Vous savez d'ailleurs que Rousseau a écrit pratiquement la même année Le contrat social, qui est le fondement théorique de la démocratie contemporaine, et l'Émile, qui est le fondement théorique de la pédagogie contemporaine. Et Rousseau disait, mon ouvrage le plus important, c'est l'Émile, c'est pas le contrat social, car j'y ai mis bien davantage que dans le contrat social. Les principes de gouvernement ne sont finalement pas dans le contrat, ils sont dans l'Émile. Et qu'il croit toujours être le maître, c'est le citoyen de la démocratie contemporaine, qu'il croit toujours être le maître et que ce soit vous qui le soyez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi. On capte les volontés. Manipulation des êtres à leur insu. C'est la même fin, celle de la pédagogie et celle de la politique. Et le même homme les a inventées toutes les deux. Oui, il est très important d'être manipulé à son insu, parce que si c'est à son insu, on est heureux, on ne le sait pas. Bon, le but, c'est le bonheur. Le but, c'est le bonheur, la félicité sociale. Alors, si évidemment les gens savent qu'ils sont manipulés, ça ne va plus. Ils ne sont pas heureux. Il faut se rappeler toujours la fin poursuivie par ces théoriciens, c'est le bonheur. Il n'y a pas de bonheur s'il y a connaissance de la manipulation. Mais il faut une manipulation. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas capables de trouver leur bonheur tout seuls. Seuls, le législateur peut les conduire au bonheur. Et ces hommes supérieurs qui ne sont pas comme le peuple, mais qui ont une claire conscience de la manière dont il faut gouverner les hommes.
Moi, j'aurais aimé, s'il vous plaît, vous demander un petit éclaircissement.
Oui.
Vous avez donné comme liste de principes dans l'éducation moderne le fait qu'on prépare l'enfant à la vie en société et selon les besoins
oui.
de la société.
Pas exactement ça. J'ai dit que l'idée des pédagogues, c'est de fabriquer un citoyen, un homme bien intégré dans la cité.
L'idée
que l'éducation a pour mission de fabriquer un homme bien intégré dans la société et un bon citoyen.
Bon, alors prenons le point précis, bien intégré à la
oui.
cité. Vous avez commencé votre conférence en nous lisant quelques extraits d'un manuel que j'aurais appelé de savoir-vivre un petit peu.
Oui, c'est
Est-ce
bien
que
ça.
Ces règles ne sont pas aussi un moyen de préparer les enfants
oh, mais bien
à
sûr.
Une bonne intégration dans la cité? Et je pensais à un autre exemple plus ancien, à Sparte. Est-ce que ne préparait pas les enfants à devenir les guerriers nécessaires à la ville, à la cité de Sparte? Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a réellement une rupture entre l'éducation ancienne et l'éducation moderne?
Non, il n'y a pas de rupture, mademoiselle. D'ailleurs, vous savez, les ruptures totales, elles sont très rares. Il y a des changements, mais des ruptures totales, il n'y en a pas beaucoup. Cette fabrication du citoyen, c'est par l'éducation, qui est prônée à partir du XVIIIe siècle, qui est considérée comme la principale et même la seule mission de l'éducation, eh bien, c'est une idée qui existe déjà d'une certaine manière dans certaines éducations antiques. Vous avez cité Sparte, vous avez tout à fait raison. On pourrait même dire qu'à Athènes, d'une certaine manière, on veut fabriquer le citoyen. Mais je crois avoir dit dès le début que les éducations anciennes ne devaient pas être idéalisées et que certaines étaient certainement peu recommandables. Maintenant, il faut bien préciser cette dixième idée que je formulais tout à l'heure. Peut-être ne l'ai-je pas suffisamment formulée. Idée que l'éducation a pour mission, pour unique mission, je dis bien unique mission, de fabriquer un homme bien intégré dans la société, un citoyen. Donc il s'agit de quelqu'un qui appartiendra à la cité nouvelle, cité conçue par les philosophes des Lumières, par les utopistes, une cité où chacun devra suivre la volonté générale, se conformer à la volonté générale. C'est la cité totalitaire, cette cité qui est en germe dans la pensée des Lumières, dans la pensée des utopistes. Et cet homme bien intégré, ce citoyen, c'est quelqu'un qui n'aura plus de volonté par lui-même, qui, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, abdique une partie de sa volonté. On le forcera d'ailleurs d'être libre, dit Jean-Jacques Rousseau. Il aura une nouvelle liberté, c'est celle que voudra bien lui laisser la cité dans laquelle il sera entré. Voyez-vous, cela a un sens très différent du sens anodin, du sens innocent que l'on donne généralement à cette expression « il faut que l'enfant soit bien intégré et adapté à la société ». Vous voyez, c'est un sens beaucoup plus... Enfin, qui n'est pas innocent, voyez-vous. Cela se rapporte à une idéologie. Et alors, dans l'État soviétique, évidemment, je vous ai cité Makarenko tout à l'heure, finalement, il s'agissait dans le système communiste de fabriquer un bon communiste. Et tout le but de l'éducation, même familiale, est de fabriquer un bon communiste. Et dans l'éducation occidentale aujourd'hui, le but de l'éducation est de fabriquer un bon démocrate. Parce que, comme je le citais tout à l'heure, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates.
Monsieur oui. le professeur, j'ai une autre question dans le même sens de ce
oui.
que vous venez de dire,
oui.
mais pour préciser encore, sans vouloir paraître anachronique ou archaïque,
oui.
question très actuelle, croyez-vous que le fait d'imposer la mixité,
ah, oui.
je ne dis pas la mixité, mais la mixité, pour être encore plus français,
oui.
dans le système d'éducation aux enfants, que ce soit de nature justement à les réduire ou à nuire à leur formation ou à leur éducation?
Oui, alors là, la réponse appartient plutôt, si vous voulez, ici à l'Église, et non pas aux pédagogues ni à l'historien. Je pense que la mixité n'est probablement pas souhaitable. Moi, c'est mon sentiment. Elle n'est pas souhaitable. Depuis 30 ans, j'enseigne à des auditoires mixtes. mon Dieu, ça ne m'a pas nui. Seulement, c'est des auditoires dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas la même chose. J'ai enseigné aussi dans des auditoires mixtes dans le secondaire, au début de ma carrière. Et il est certain que ça ne donnait pas de bons résultats. Je l'avais constaté. Les filles, d'ailleurs, se mettaient toutes d'un côté, les garçons de l'autre. Au lieu d'avoir une classe, j'en avais deux. les réactions ne sont pas les mêmes et surtout on ne peut pas comme nous disons, n'est-ce pas, engueuler des filles comme on engueule des garçons. Ça, c'est le grand défaut de la mixité, à mon avis. C'est le principal défaut. Cela dit, il faut regarder dans le passé comment se faisaient les choses à ce point de vue là bien, dans les écoles de l'ancienne France qui furent celles de la nouvelle France, la mixité était bannie, les évêques l'interdisaient. Seulement, beaucoup de communautés rurales n'avaient pas les moyens nécessaires d'entretenir deux écoles. Vous savez que l'école paroissiale était la norme. Alors, on avait une seule école, et on mettait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et puis, quand l'évêque passait, on lui expliquait la situation, et on essayait de négocier avec lui. Voilà comment se faisaient les choses. Voilà, mais enfin, moi, je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet.
Moi, j'aurais une autre petite question.
Mais vous dites qu'elles sont petites, mais elles ne sont pas si petites, mademoiselle.
Une maxime bien connue dit « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Pensez-vous que l'époque moderne, enfin l'éducation moderne est faite sienne cette maxime et l'est poussée à l'extrême ?
Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas. D'abord, l'éducation moderne se préoccupe assez peu de la tête. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, cette maxime que vous avez citée, qui est d'ailleurs à l'origine, à mon avis, de la subversion pédagogique, parce que Montaigne est un auteur très redoutable. C'est lui qui a dit aussi « savoir par cœur n'est pas savoir ». Et c'est lui qui dit donc une tête bien faite. Mais c'est un paradoxe, parce qu'une tête bien faite, c'est aussi une tête bien pleine. Qu'est-ce que ça veut dire, une tête bien faite, s'il n'y a rien dedans? C'est absurde. C'est absurde, c'est avec des paradoxes comme cela que Montaigne... Et puis, Montaigne ne peut pas aller contre le désir naturel de l'intelligence de connaître. De connaître. Et de connaître, je dirais, le plus possible. Le plus possible. Et d'ailleurs, regardez, moi, c'est une chose qui me touche beaucoup, toujours. Mais il ne faut pas tomber dans la sensiblerie, ni dans la sensibilité. C'est l'appétit de connaître naturel aux enfants. C'est une chose tout à fait remarquable. Et je trouve qu'on a réduit que les pédagogues... Je relisais les travaux de Freinet, qui s'est beaucoup penché justement sur ce désir de connaître l'enfant et qui a étudié en particulier les pourquoi des enfants. Vous savez, les petits-enfants posent la question pourquoi. Alors Freinet a étudié ça de très près. Mais à force de l'étudier, de l'analyser, il finit par réduire le désir de connaître, à mon avis. Il y a là la marque d'un appétit de connaître, d'une volonté, d'un désir profond d'intelligence de connaître l'être, qui se manifeste très tôt chez l'enfant. Mais moi, je ne suis pas pédagogue, vous comprenez. Je ne suis pas spécialiste de cet art de la pédagogie, car il y a un art de la pédagogie, il y a aussi une science pédagogique. On peut très bien, effectivement, s'intéresser au pourquoi de l'enfant, les analyser, et ainsi de suite. Seulement, ce qu'il ne faut pas, c'est introduire des présupposés philosophiques qui vont, en quelque sorte, imposer une conception de la nature humaine. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Il ne s'agit pas pour moi de condamner ni l'art ni la science de la pédagogie.